Voilà, j'appelle le Jean-Marie Panazol, le directeur de l'École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'ESN ESR. Voilà. Il va traiter d'un sujet qui est majeur. On parle tous de la transformation sociétale par le numérique. Et évidemment, nos étudiants arrivent dans nos universités après avoir subi, on l'espère, une véritable transformation depuis la maternelle. Et on sait même que nos enfants, avant même d'aller à la maternelle, commencent à utiliser des tablettes et des smartphones dès l'âge de 18 mois ou même avant. Donc c'est assez étonnant. Cette mutation numérique fait que nos étudiants ont changé et changeront grâce à cette préparation qui est menée par l'ensemble du système éducatif en amont des établissements universitaires. Monsieur le directeur et cher ami.
Oui, je voudrais juste prendre la parole une minute et remercier vraiment très sincèrement Jean-Marie Panazol qui est un des gros contributeurs à l'organisation de cette journée, à la fois en sonnant et trébuchant et surtout en qualité de soutien et de participation des personnes qui l'entourent. Donc merci beaucoup, monsieur le directeur.
Bien, bonsoir à tous et à toutes. D'abord, j'aurais peut-être expliqué pourquoi je suis là. Merci de ces remerciements, mais ce n'est pas uniquement en tant que contributeur. En effet, l'École supérieure de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur de la recherche, l'acronyme ESNESR, si vous permettez, voilà, n'est pas un établissement d'enseignement supérieur. Et donc, je me dois quelques éléments d'explication. Pour vous dire que, bien évidemment, nous travaillons à la formation des cadres de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur de la recherche. Donc nous intervenons dans la formation des cadres, notamment administratifs, les DGS, les DRH, les DAF, dans les universités, dans les établissements d'enseignement supérieur. Mais surtout, et c'est sans doute peut-être le plus important, nous travaillons avec les universités et avec les laboratoires de recherche qui nous aident, au travers de leur contribution aux résultats de la recherche, à mettre en place, expérimenter, j'en parlerai, et surtout mettre en place un projet assez révolutionnaire, je pense, de formation des cadres par et pour le numérique. En effet, nous avons dans notre école une expérience qui est une dizaine d'années à peu près de travail sur et d'expérimentation sur la formation, la mise en place de formations hybrides, de formations à distance et d'utilisation des outils numériques. Et nous avons surtout un projet de transformation en profondeur de cette école, mais plus généralement de la stratégie de formation des cadres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale qui s'appuie sur le numérique. J'en reparlerai pour illustrer sans doute mes propos. Alors évidemment, cette question, le sujet qui m'a été proposé, la transition numérique du scolaire au supérieur, est un sujet, vous l'avez précisé, extrêmement vaste et qui finalement embarque, j'ai l'occasion d'en apercevoir en écoutant les interventions de cet après-midi, toutes les problématiques qui ont été évoquées et qui tiennent finalement au pouvoir de transformation du numérique. Certains disent en réduisant un peu dans l'acte d'enseigner, dans l'enseignement au sens générique du terme. Et même dans l'éducation, je vais essayer de répondre, mais en posant plus des questions qu'en apportant des réponses, si vous me permettez, sur cette question de la transition numérique de l'enseignement du scolaire au supérieur, donc de ce qu'on appelle dans le jargon politique la question du bac-3, bac+3. Finalement, le sujet est assez facile à cerner. Hein. Il s'agit de voir, quand on aborde cette question dans cet ensemble-là, c'est-à-dire d'un élève qui se projette ou que l'on aide à se projeter dans un avenir universitaire ou supérieur et au-delà dans un avenir professionnel, comment travailler à sa réussite et comment l'aider dans ces transitions qui sont des transitions pas du tout évidentes, sans vouloir être trop long, chacun en tête la difficulté et il suffit de reprendre les orientations et les principes des différentes lois hein, sur l'école. Je ne fais pas uniquement référence à la dernière loi sur la refondation de l'école, mais cette question de la transition entre le primaire, le secondaire et l'enseignement supérieur, et combien cette question, avec toutes les questions de changement de culture que l'on impose aux élèves étudiants et au-delà est un sujet difficile et compliqué. En quoi est-ce que, si je veux un peu développer cette question, la problématique du bac-3, bac+3 est vraiment d'essayer d'étudier, enfin de préparer un élève, futur étudiant, à son orientation, de franchir les étapes sans rupture, de sortir du cloisonnement, et vraiment d'appréhender progressivement de nouvelles cultures, de nouvelles façons d'enseigner et de progresser dans sa construction même de citoyen. Parce que finalement, l'enseignement, ce n'est plus ni moins qu'une problématique qui renvoie à cette question de la construction citoyenne. Et le numérique, en ce sens, ouvre des perspectives qui sont particulièrement intéressantes. Et c'est, je pense, sur ce point-là qu'il faut revenir. Je prends le risque de répéter certains éléments qui ont été évoqués au travers de l'illustration des questions et des exemples qui ont été traités. Si l'on accepte la définition hein, de mot transition numérique, donc passer d'un état connu à un autre état connu, mais sans connaître vraiment le chemin hein, pour y arriver, on voit immédiatement émerger les questions qui peuvent se poser et les opportunités qu'offre le numérique par rapport à cette question d'aider un jeune à franchir ces étapes et en admettant aussi l'idée, et là je réserve un sort et j'écarte les représentations ou les débats un peu stériles et faciles de l'enseignant supérieur qui dit bon le collégien, le lycéen est mal formé, ou de l'enseignement scolaire qui dit c'est l'enseignement supérieur à s'adapter à. Si on veut essayer de dépasser et de voir en quoi le numérique nous permet justement de rentrer dans un continuum, de construire ce continuum entre le bac-3 et le bac+3, on voit que on a derrière ces questions, et on voit se profiler et là je vais aborder une des premières questions qui est comment est-ce qu'on gère cette transition entre ce que c'est hein, je vais faire une référence hein, à quelqu'un qui est assez connu, les humanités numériques, Milad Wery, qui parle des humanités numériques et qui affiche une rupture par rapport à une autre conception de l'enseignement, qu'il soit scolaire ou universitaire d'ailleurs, on voit bien. Et donc là, la première question qui se pose, c'est effectivement comment est-ce que dans l'enseignement, nous allons-nous intégrer cette question, ce transfert, ce passage à un nouveau paradigme finalement qui va au-delà des outils. Et là, je voudrais aussi donner le résultat de l'expérience que nous avons, nous, à l'école, en matière de formation d'adultes et de formation des cadres, c'est que la question du numérique n'est pas une question d'outils, c'est pas une question technologique. C'est d'abord une question de rapports humains. Ce sont des rapports sociaux, des rapports sociétaux, des rapports au savoir qui changent, et ça n'est certainement pas une question de tablette ou une question d'Internet ou de Wi-Fi ou que sais-je encore. On est vraiment dans la transformation d'un modèle, hein, d'un modèle et de principe pédagogique. Mais ça a été évoqué d'ailleurs. Hein, pardonnez-moi de répéter les choses qui ont été dites à cette table, hein, de transformation des rapports pédagogiques entre des parties prenantes, hein, des enseignants, des élèves, des étudiants, et qui conduisent à travailler avant le travailler cette question du continuum en se posant d'abord la question de la transformation des rapports sociaux. On voit bien, ça a déjà été dit, que l'introduction du numérique, c'est une façon de travailler beaucoup plus transversale. Hein. On a parlé, ça a été évoqué, on a évoqué la question des communautés, on a évoqué et a été évoqué dans certaines interventions, l'horizontalité, la réticularité des processus de conception et des formations. C'est un élément tout à fait fondamental qu'il faut complètement intégrer dans ce que j'appelle le changement de paradigme, les nouveaux principes pédagogiques, si je puis dire. Et c'est pourquoi quel est le lien avec le bac-3 et le bac+3 ? Parce qu'on voit bien que ces principes pédagogiques, ils valent aussi bien pour des enfants du collège, des élèves de lycée, que pour des étudiants, que pour des adultes. Quand toute la littérature universitaire française et étrangère, nous travaillons beaucoup, nous sommes en partenariat avec des universités françaises, mais aussi à des universités étrangères, canadienne, en particulier la TELUC, avec laquelle nous organisons un colloque sur la question de la transformation des organisations éducatives à l'ère du numérique et de la mobilité au mois de novembre, eh bien, tous les travaux de recherche conduisent à dire que le numérique donc, pose des nouveaux principes pédagogiques qui s'adaptent à n'importe quel public, pas seulement un public d'adultes, pas seulement un public d'enseignants. Donc cette question, elle est tout à fait essentielle dans la nouvelle approche de l'enseignement. Un autre élément aussi, une autre question qui a été évoquée, mais sur laquelle je me permets de revenir, c'est l'impact du numérique sur la transformation des espaces de formation. Nous avons à l'intérieur de l'école acquis au travers des expériences une absolue certitude qu'il faut complètement reconfigurer les espaces de formation. Je ne sais plus si à l'avènement du numérique, on peut rêver, nous aurons encore besoin d'amphithéâtres de ce type, et je ne sais vraiment pas si la configuration spatiale de nos écoles, de nos universités restera la même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le projet que je porte aujourd'hui, qui s'intitule de façon un peu facile, enfin commerciale, on pardonnerait, ZNESR 3.0, vous voyez, j'ai franchi une étape, il est clair que nous envisageons de réaménager complètement les espaces de formation. Mon école, enfin l'école, pour ceux qui la connaissent, elle est fondée sur le modèle des années 80, hein, c'est sans reprendre la figure de Dubé, mais voilà, c'est la classe, c'est l'enseignant qui regarde le savoir et qui ne regarde pas les élèves, et c'est une conception spatiale qui est une conception complètement datée, et aujourd'hui, les phénomènes d'apprentissage, grâce au numérique, mais pas que, dans le domaine du présentiel, se traduisent par une porosité complète des espaces. L'apprentissage formel, informel, se fait autant par les échanges entre formés ou apprenants en dehors des espaces consacrés à la formation que dans les espaces consacrés à la formation. Dans les espaces consacrés à la formation, ce qu'on appelle la classe ou les espaces, la relation avec l'enseignant ou l'animateur ou le coordonnateur ou celui qui vient fédérer les énergies et développer cette intelligence collective en favorisant les échanges entre les stagiaires, cet aménagement doit être complètement reconfiguré. La disposition avec le bureau et le frontal, hein, qui rappelle toujours cette figure pédagogique classique, elle est maintenant totalement à revisiter. Même si il ne faut pas être absolument dogmatique, il y aura toujours des moments, et nous en sommes aujourd'hui l'expression, où des communications plutôt descendantes auront toujours leur légitimité.
Il y a Internet derrière.
Comment ? Voilà. Non, mais je n'y voyais pas une critique.
Non.
C'est une.
Ça tweet de partout. Hein,
voilà. Donc on a cet élément-là aussi, hein, qui est. Vraiment derrière cette question du numérique. Et donc on voit également émerger une implication et une transformation du rôle des acteurs dans la formation. Et là aussi, c'est un élément tout à fait essentiel. Sans une implication forte, alors de ce qu'on appelle, dans le jargon pédago, les apprenants, et non pas une implication telle qu'on peut la concevoir, complètement statique, je prends des notes, j'écoute, ou alors je regarde sur mon portable ce qui se passe, etc. Mais une interaction permanente entre les acteurs, entre les apprenants eux-mêmes et avec l'animateur, le prof, peu importe son statut, les choses doivent complètement évoluer. Donc cette transformation de la place des acteurs et de leur rôle, hein, et donc l'engagement au sens fort du terme qu'il y a derrière cette transition numérique, elle est tout à fait déterminante. Et ce faisant, je répète, on voit bien que ces principes pédagogiques qui sont à l'œuvre et cette transformation induite par l'irruption du numérique, elle permet finalement de décloisonner et de réduire la taille des ruptures qu'il y a entre les niveaux d'enseignement, qu'ils soient du primaire, du secondaire ou du supérieur, puisque finalement elle conduit à proposer une démarche d'acquisition des connaissances et des compétences derrière, les deux étant de concept, enfin je ne vais pas le développer, mais étant fortement liés dans cette démarche-là, qui conduit à revisiter bien sûr la façon et le cloisonnement, la forme de cloisonnement disciplinaire, ça c'est aussi un autre sujet qui est tout à fait essentiel, hein, mais et donc de ce fait favorise les transitions et favorise les notamment dans ce qui concerne le bac moins 3, bac plus 3, la transition entre le secondaire et le supérieur, du moins il faut l'espérer. Cette forme de révolution, d'ailleurs, elle n'est pas propre au secteur de l'enseignement. Toutes les administrations, toutes les organisations, au sens le plus large du terme, sont concernées. Et c'est pour cela que nous sommes, je le redis, nous devons toujours avoir en tête que nous sommes là, non pas en présence d'une révolution technologique, mais d'une révolution sociale, sociétale et économique également. Également économique. J'ai entendu parler du modèle économique, la question du modèle économique pour certaines des organisations qui s'engagent. Il est clair et j'adhère totalement à certains propos qui ont été tenus sur le fait que le numérique ne nous permettra certainement pas d'économiser le moindre fifrelin en budget d'éducation. On transforme les budgets, on les déplace, on les utilise complètement différemment, mais on n'a certainement pas d'économie que les turiféraires de Bercy se rassurent, ou du moins continuent à trembler. Le numérique va au contraire augmenter les coûts de formation fortement, ne serait-ce que parce que ils introduisent, là, je fais une petite incise, une forme d'agilité, l'expression je pense est maintenant dans le fonctionnement des organisations et dans les réponses. Voilà, dans les réponses que nous pouvons apporter aux formations, qui fait que on va être obligé d'amortir sur un temps beaucoup plus court des formations et les actualiser et avoir une ingénierie pédagogique qui est beaucoup plus coûteuse que l'ingénierie pédagogique traditionnelle. Ah, mais bien sûr, nous sommes sur une question d'efficience et c'est là aussi où il faut, me semble-t-il. Je m'écarte du sujet de la transition Bac-3, Bac-3, pardonnez-moi, mais c'est un sujet qui me semble suffisamment passionnant. Il faut voir aussi toute la, en matière de formation, la fantastique avancée du numérique, là où nous sommes, je ne sais pas quelle est la capacité de cet amphithéâtre.
200,
voilà. Là où, dans une forme traditionnelle, nous avons la capacité de travailler avec 200 happy few. Lorsque nous aurons, comme c'est le projet dans l'école que je porte, un campus virtuel, eh bien je serai en capacité dans mon école de former 1000, 2000, 3000, 4000 personnes qui, connectées avec leur avatar dans un monde immersif, pourront bénéficier des mêmes interventions que vous, pourront interagir via Twitter, via tous les outils dont nous pouvons disposer pour venir m'interrompre, venir vous poser une question, obtenir une réponse, venir contribuer aussi dans une logique d'intelligence collective à la réflexion globale. Et on voit bien qu'en termes d'efficience, cette fois-ci, nous franchissons, un cap tout à fait considérable. J'en profite aussi, j'ai entendu tout à l'heure une interrogation autour, est-ce que le numérique ne va pas tuer le présentiel? Non, certainement pas. Par contre, il en modifie considérablement la nature même. Et ça n'est pas une vue de l'esprit, ça n'est pas une représentation théorique, je ne suis pas en train de faire la prospective. Nous en avons, comme je vous l'indiquais, dans mon école, avec quelques années d'expérience et de retour d'expérience sur les mises en œuvre, nous en avons une certitude. Le taux de croissance d'activité de mon école, le taux de croissance de l'activité numérique est identique au taux de croissance de l'activité présentielle ou l'inverse. Voilà. Donc, par contre, effectivement, les présentiels changent complètement de nature. C'est une évidence. On parlait de la classe inversée et du coût de la classe inversée, du coût pédagogique de la préparation de la classe inversée. C'est vrai, ça je confirme. Par contre, vous avez là un changement total de relation en présentiel. Avec une articulation qui se crée avec un travail sur les savoirs ou sur les connaissances qui peut se faire à d'autres moments, à d'autres temps, et une réflexion sur l'appropriation de ces connaissances, la mise en perspective, la mise en relation dans un univers professionnel, qu'il soit étudiant, qu'il soit scolaire ou qu'il soit dans le cadre des formations d'adultes, qui là est réservé au présentiel. Et là, on revient sur les questions de l'intérêt du travail collaboratif ou de développement de l'intelligence collective. Donc, Quelques mots de conclusion. Ben oui, mais alors vous voyez, je suis vraiment... Ces quelques réflexions donc m'ont conduit, j'ai dit, à proposer aux autorités de tutelle une profonde réorganisation de la structure que je dirige pour intégrer complètement ce nouveau paradigme du numérique. Et donc, dans le cadre de la formation des cadres de l'éducation nationale, en partant du principe qu'en formant les cadres, nous espérons évidemment pouvoir impulser et travailler sur cette révolution numérique dans les outils pédagogiques qui seront mis en œuvre, aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau de l'enseignement supérieur. Et je le répète, ce qui me permet de dire qu'on est là dans une étape qui prépare véritablement à la mise en place de ce continuum Bac-3, Bac-3, c'est que justement, au travers du numérique, grâce au numérique, nous aidons véritablement par le caractère invariant des solutions pédagogiques nouvelles que nous tentons de promouvoir grâce au numérique, nous travaillons sur cette question, me semble-t-il, des transitions scolaires et universitaires.
Chers collègues, je me permettrai de vous poser juste une question. Est-ce qu'éventuellement... vous savez, quand Geneviève Fioraso était ici, elle a travaillé sur le concept de l'égalité des chances et de l'amélioration de l'égalité dans la réussite, en particulier étudiante, grâce peut-être aux apports de cette pédagogie renouvelée grâce au numérique. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette voie, qu'on avance vers des résultats meilleurs pour une plus grande quantité de nos étudiants, un plus grand nombre ?
Écoutez, je ne suis pas suffisamment expert pour répondre très précisément à la question. Ce que je peux vous dire, c'est l'expérience que nous avons au sein de notre école, c'est une forme d'égalité des chances, c'est-à-dire la question de la continuité territoriale. Lorsque nous avons des cadres de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale qui sont distants pour certains de plusieurs milliers de kilomètres et qui doivent néanmoins bénéficier des formations à l'identique de ceux qui géographiquement sont plus proches, les outils numériques et la formation à distance est là vraiment un facteur d'égalité des chances. Nous rapprochons les territoires. C'est une façon de répondre. Je pense que l'accès au savoir, là je me permets après, peut-être de répondre.
Voilà. L'UNESCO après.
Voilà. Mais à partir du moment où on se garantit qu'il y a une égalité d'accès au savoir via les outils numériques, on travaille avec la question. On se repose la question quand même derrière du modèle pédagogique parce qu'on sait très bien que l'accès au savoir n'est pas à lui seul garantie de réussite.
Merci beaucoup, monsieur le directeur.